Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Sur Mesure et qui a fait une cravate aussi aux couleurs de l'arc-en-ciel, de l'espoir. Là, ça va bien aller. Donc, encourageons nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons le masque. Pour faire un peu différent, on a commencé depuis ce matin à publier les chiffres sur le bilan. Donc, je vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez déjà. Je vais passer plutôt à certains commentaires sur la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infecté diminue, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu la séquence dans les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on ne les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, durant la négociation de la convention collective qui commence, là, qui a commencé dans le fond, même si ce n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable, justement, de combler ces 10 000 postes. Et puis, bon, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés. Parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter les préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés, soit qui avaient la COVID-19 ou dans certains cas, il y avait peur d'attraper la COVID-19, commence un petit peu à revenir. Là, on est rendu à 9 700 qui sont absents actuellement. Mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. On essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels, ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, bien, on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de travailler dans nos CHSLD, puis les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé ce matin avec Justin Trudeau. J'ai demandé que les 1000 soldats restent jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former des employés pour combler les postes qui sont manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent, a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, on va dans les prochains jours, lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, ça va se donner dans plusieurs dizaines de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepterait de venir suivre une formation qui va durer 3 mois, donc ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides
de service.
De service. Ça, c'est un salaire de 21 $ de l'heure, 760 $ par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après 3 mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 $ de l'heure, donc 940 $ par semaine, 49 000 $ par année. Donc, je pense que c'est une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que c'est pas juste une question de salaire, de chiffres, d'argent. C'est quand même un travail valorisant. Venez s'occuper des personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail. Donc, ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et je le disais déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas, si 10 000 employés de plus, c'est pas suffisant, d'augmenter encore davantage les ratios. On l'exclut pas, mais on va convenir là qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein. Donc, 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les conventions collectives. Là, il faut quand même être capable de livrer la marchandise. Mais je veux être très clair là, que j'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire. Mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables, d'avoir du temps pour parler avec les résidents, peut-être aussi changer le nom, hein, préposé aux bénéficiaires, on n'aime pas ça, bénéficiaires là, qui s'occupent des vraies personnes, des vrais résidents, avoir le temps, parce que c'est aussi important, ce travail-là de contact avec les résidents, que la partie qui est plus médicale. Donc, tout le monde, là, préparez-vous, dans les prochains jours, on va vous donner les adresses, là, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, mais quand même, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport de l'armée. Bon, pas beaucoup de surprises. Évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas difficile, mais je retiens surtout deux choses du rapport et des rapports, là, parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça fait puis qu'on a beaucoup de monde qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et dans les zones froides à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, puis je pense qu'on a réussi justement avec les gens de Je contribue puis les soldats qui sont arrivés à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, on le connaît et puis vous le connaissez. Donc, c'est important d'ajouter du personnel. Puis quand il y a une zone chaude, bien que ça soit du personnel spécifique qui aille dans la zone chaude. L'autre problème qui a été relevé, puis ça aussi, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle. Donc, comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement quand on passe d'un résident à l'autre. Même les militaires ont dû s'adapter, puis malheureusement, certains ont été infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui n'ont pas eu de formation, qui ne sont pas qualifiés pour la plupart. Il y en avait quelques-uns qui c'était des gens à la retraite qui sont revenus. Bien, c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc, je dirais, ce sont les deux remarques là qui reviennent. On n'a pas eu des remarques comme dans le rapport d'hier en Ontario. Bon, et un autre sujet que je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. On l'a vu, puis le docteur Arruda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, bien, il y a la moitié des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable, à ce moment-là, de faire des comparaisons. Donc, ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas, pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Washington, D.C., Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception. Une exception, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de déclarés. D'ailleurs, j'ai lancé un défi au Dr Arruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes dans l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux gens qui connaissent ça. Je termine avec mes remerciements du jour. Bien, mes remerciements du jour, c'est les personnes de Je contribue puis les militaires. Je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite pour passer mon petit message. J'aimerais que les militaires restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, c'est pas facile. Ils ont d'autres missions. Mais je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, là, c'est qu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient disponibles pour les remplacer. Bon, dernière chose aussi que je vous dis, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense, entre autres, à tous les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir à 5, à 10 entre amis? Je sais aussi que dans le monde artistique, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait un tiers ou un demi des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas demain matin. Puis, la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, il faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces puis des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse ensuite se parler de rassemblements intérieurs.